Christiane Campagna, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de t'avoir ici en studio aujourd'hui pour cette chronique mensuelle Histoire et grand nom de la médecine et de la science. Louis Pasteur, à qui on associe la pasteurisation?
Ça, ben c'est... oui, parce que c'est le procédé qui a fini par porter son nom. Donc, il a fait plein de choses, mais évidemment, dans ce cas-ci, comme il a légué son nom au procédé, c'est la... Je dirais qu'il y a deux grandes choses quand on pense à Pasteur. On pense à la pasteurisation et au vaccin contre la rage.
Mm-hmm, mm-hmm.
Mais ce sont deux jalons dans une carrière bien, bien remplie.
Assez taillée. Et en même temps, ce qui est surprenant avec Pasteur, c'est qu'il s'est mis le nez dans plein de secteurs, biologie, chirurgie, médecine, l'agriculture aussi.
Oui, mais c'est que ce sont toutes des choses, on va voir, qui sont interreliées.
D'accord.
Parce que, bon, tu as un petit peu de bio. Oui. Pasteur est né dans le Jura, à Dole.
Et, c'est un Français.
Oui, c'est un Français. Et d'ailleurs, l'Institut Pasteur, la maison mère, on y reviendra à la fin, est à Paris. Donc, au début, il s'intéresse à l'art. Il se cherche un peu, on dirait, dans ses études-là. Il obtient d'ailleurs deux baccalauréats, un en lettres et un en chimie.
Ah ben.
Ensuite, deux doctorats, un en physique et un en chimie. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de se tourner davantage vers la recherche. Il est à l'époque surtout du côté de la chimie, avec l'influence du chimiste Jean-Baptiste Dumas. Donc, en 50 ans, c'est ça, on peut dire que les découvertes de Louis Pasteur là, vont toucher à la chimie, à l'agriculture et à la médecine, mais on va voir que c'est relié. Il enseigne dans un premier temps à Dijon, à Strasbourg, et ensuite il est nommé professeur et doyen de la Faculté des sciences à Lille. Et là, c'est l'époque où il commence à s'intéresser à la question de la fermentation.
Mm-hmm.
Ça se poursuit en 1857 quand il est nommé administrateur de l'École normale supérieure. Il se fait installer un laboratoire dans le grenier, parce que même s'il y a des fonctions administratives, des fonctions d'enseignement, la recherche, ça demeure très important
pour
lui.
C'est son dada. Oui,
oui, vraiment. Et là, il commence à étudier la question du processus de fermentation, en fait.
Mm-hmm.
Et c'est là qu'il va prouver que les levures, on utilisait les levures depuis des millénaires, mais de prouver que ce sont des micro-organismes qui sont responsables du phénomène de la fermentation et non pas un résultat de la fermentation. Parce que souvent, c'est ça qui va arriver avec Pasteur. C'est qu'il va prouver des choses. Il va démontrer des choses qu'on pratiquait déjà. Il pousse plus loin ses recherches, entre autres poussées par des compagnies de bière.
Oui, et, c'est ça. Il a fait des tests sur la bière et le vin. Hein?
Oui, c'est les recherches qui vont mener à la pasteurisation partent de là. Et ça va l'amener aussi à, nier pour de bon le phénomène de génération spontanée. Ça aussi, ça expliquait depuis des millénaires. Écoutez, ce ne sera pas le bout le plus ragoûtant, là, mais le fait que quand un aliment pourri, il se développe, bon, des petits vers, des choses comme ouais. ça, on pensait que c'était de la génération spontanée. C'est ceux qui pensaient que c'était inhérent, c'était déjà dans la matière. Ça naissait tout seul à partir de la matière. Et avec différentes expériences, en isolant complètement les choses, il va réussir à démontrer que non, c'est parce qu'il y a des œufs, c'est parce qu'il y a des micro-organismes qui,
voilà,
s'il y avait eu le temps de se
mm-hmm.
déposer entre-temps. Et ça va avoir une grande influence sur l'hygiène, sur les questions de conservation alimentaire et
la sepsie. Contamination aussi.
Ouais, mais aussi la sepsie en médecine, parce qu'il y était une époque où, pendant longtemps, on opérait non seulement sans anesthésie, mais sans asepsie aussi. Vous pouviez mourir de votre opération, dans le sens où, en attrapant quelque chose... et c'est là qu'il en vient à la pasteurisation, qui va découvrir que le vin ou la bière, lorsqu'ils sont chauffés à la bonne température et pendant la bonne durée, que ça en augmente la conservation. La pasteurisation, c'est une température entre 65 et 100 degrés Celsius environ. Et là, la chaleur, elle détruit des bactéries pathogènes, autrement dit, ceux qui causent la détérioration de l'aliment, mais pas au point que vous puissiez la conserver sur votre comptoir. Faut quand même réfrigérer l'aliment afin de prévenir la multiplication des bactéries qui n'auraient pas été détruites. Elle est utilisée pour améliorer la propreté, le goût, la sécurité des aliments, prolonger sa vie et préserver sa qualité. Aujourd'hui, on l'utilise pour la bière, les jus de fruits, le lait, les œufs liquides, le miel ainsi que le cidre.
Et Christiane, le temps file, évidemment. Je veux que tu nous parles du vaccin contre la rage,
oui,
qui est assez une découverte assez déterminante là, dans le parcours de Pasteur.
Oui, Pasteur n'invente pas l'inoculation. Ça commence avec la variole, ça vient de l'Empire ottoman au 18e siècle, mais il va en montrer le principe d'action. Et ça s'inspirer par ses recherches sur la fermentation, parce qu'il est convaincu que les maladies infectieuses trouvent leur origine dans des micro-organismes mm-hmm. spécifiques.
Il revient à ça ouais. encore. Ouais,
ouais. Il va s'intéresser à beaucoup de maladies de l'époque. Il va s'intéresser au choléra des poules, au charbon des moutons, mm-hmm. ce qui est transmis par l'anthrax en guerre bactériologique aujourd'hui, et aux rougettes du porc. Et entre autres, il va s'apercevoir qu'en injectant justement des poules une petite quantité du microbe, qu'elle n'attrape pas la maladie. Il va vacciner des moutons, il va s'apercevoir qu'ils n'attrapent pas le charbon. Il débute ses recherches sur la rage dans les années 1880, suite à la mort d'un enfant à l'hôpital Saint-Eugène. Mais c'est long avant qu'il trouve l'élément pathogène. Son premier succès, c'est en 1885, le 6 juin. Il reçoit la visite d'un enfant qui a été mordu par un chien qu'on soupçonne de porter la rage. Et le vaccine, il prend une chance et l'enfant ne développe pas la maladie. Ça, c'est pas de l'inoculation. C'est pas un vaccin préventif. Ou qu'on prend au cas où on attraperait
mais
la maladie.
Curatif.
Curatif. Mais si vous avez une rage déclarée, vous allez mourir. C'est entre le moment où vous avez été infecté et le moment où la maladie se déclare.
Il faut agir vite, donc.
Qu'il faut être vacciné.
Et en 88, on ouvre l'Institut Louis Pasteur oui. à Paris. Ça sert à quoi, cet institut-là,
maintenant?
C'est
un institut où on utilisera, où on continuera de développer la lutte contre les maladies infectieuses.
Ah,
c'est...
Oui.
Pasteur lui-même qui dirige l'Institut jusqu'à sa mort à 73 ans, en 1895. Et par exemple, dans les années 80, c'est l'Institut Pasteur qui a isolé le virus du sida, qui a été les premiers à le faire. Ils ont des succursales un peu partout dans le monde, mais le siège social est toujours à Paris et sont toujours à la fine pointe de la recherche contre les maladies infectieuses.
Oui, ils sont encore impliqués. Je voyais une campagne encore là, sensibilisation à la rage, donc toujours présent là, même après toutes ces années. Bien, merci pour ces lumières sur Louis Pasteur, Christiane Campagna. C'est toujours un plaisir de vous avoir une fois par mois. Vous savez quoi? Eh bien, il y a Marie-France Reynaud qui nous a donné des propositions pour vos prochains sujets.
Oh.
Des gens qui se sont vraiment impliqués en politique publique, santé publique. J'espère vous entendre là-dessus.